On avait expliqué c'était quoi la hikma dans le dernier cours, c'était quoi? C'est exactement ça. Hein? Comme tu viens de le rappeler, Barakalofik. Il se distingue par l'appel à Allah avec sagesse et le bon rappel. Qu'est-ce qu'on avait dit en arabe? Le bon rappel c'était? Vas-y, dis-le. Non? On avait dit le bil hikma wal maw'izatil hasana, le bon rappel. Hein? Et la discussion de la meilleure des manières. Wa al-mujadalatu billati hiya ahsan. Il faut essayer de retenir ces termes-là, inshallah. Et ceci est clair, donc Cheikh Obed continue en disant, et ceci est clair dans l'histoire des compagnons et des tabi'in, hein, ceux qui ont succédé aux compagnons. Et ceux qui leur ont succédé parmi les imams de la guidance. Maintenant, on revient à la parole de Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Qal al-musannif, rahimahullah, donc on dit, l'auteur a dit, on fait référence à qui? Mohamed Al-Wahhab, évidemment, c'est important de garder ça en tête. Hein. Qal al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, bab al-ilmu qabl al-qawli wal-amal. Et on peut dire, bab al-ilmi qabl al-qawli wal-amal. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc Cheikh Mohamed Al-Wahhab, il nous dit ici qu'Allah lui fasse miséricorde, Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit chapitre de la science avant la parole et l'action. Et la preuve de cela, hein, et je vous rappelais qu'on disait toujours que c'est une traduction approximative du sens, sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah. Et implore le pardon pour ton péché. Donc on a dit, c'est la traduction du sens du verset 19 de surat Muhammad. Na'am, barakallahu fik. Donc il commença donc par la science avant la parole et l'action. Donc maintenant on a l'explication de Cheikh Obed al-Jabiri sur ce point-là. Babun al-taqdiru hadha babun. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Qabla an yad'u يجب عليه أن يتعلم دين الله الذي هو الذي يدعو إليه. وهنا نقول إن الدعاة أو المنتسبين للدعوة ثلاثة أقسام. Donc qu'est-ce que Cheikh Abdel Jabiri nous dit ici? Nous dit, et on va voir que c'est un point assez important. J'ai préparé une série de questions pour vous à la fin, inshallah, pour un peu s'entraîner comme on avait fait pour le livre Cheikh Rabi' précédemment. Donc restez concentrés. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que chapitre, quand on dit chapitre, quand l'imam Bukhari a dit ici le babun, il a dit en fait littéralement un chapitre, ce qui est sous-entendu, c'est ceci est un chapitre. Donc revenez dans le contexte de la langue arabe, parce que je vois des frères qui me regardent un peu. Hein. Regardez dans la langue arabe, qu'est-ce que nous dit le Bukhari? Bab, c'est-à-dire un chapitre. Ce qu'il faut sous-entendre ici, c'est ceci est un chapitre, évidemment. Hada babun. D'accord? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ce qui est sous-entendu, c'est ceci est un chapitre, la science avant la parole et l'action. D'accord? Avant de prêcher, hein, il est obligatoire au prêcheur qu'il apprenne la religion d'Allah, hein, à laquelle il appelle. Et nous disons ici, les prêcheurs ou ceux qui se revendiquent de la prêche sont de trois types. Les chers vont nous rapporter ici les trois types de gens qui se revendiquent de la prêche. Hein? Et dit, الصنف الأول هم أهل البصيرة أي الفقه في دين الله والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجج والبراهين وهؤلاء هم أسعد الناس وهم الذين أثنى الله عليهم في قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سورة يوسف. Donc quelle est cette première catégorie ou ce premier type de gens? On va peut-être apporter les trois d'abord d'un coup, hein, comme ça on fait le texte en français, c'est peut-être mieux pour vous, hein. D'accord. الثاني دعاة الجهل وهم الذين يتصدرون ميادين الدعوة ولا فقه عندهم في دين الله أو عندهم فقه لا يؤهلهم وهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون وهم في الحقيقة سلم لأهل الأهواء. الصنف الثالث دعاة الفتنة والضلال دعاة الانحراف. وأول فرقة خاضت هذا الميدان هم السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا فأول حدث أحدثوه في الإسلام تحريض الناس على أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه حتى قتلوه، تحريض وتهييج حتى قتل الخليفة. وهؤلاء هم أي السبائية سلف الثوريين لليوم، لأن من أصول أهل السنة والجماعة اجتماع الكلمة على من ولاه الله أمر المسلمين، وعدم شق العصا وعدم تفريق الكلمة. فالثوريون من بني جلدتنا أخذوا هذا الجانب عن السبائيين، وأحداثهم في الإسلام كثيرة، الزندقة والرفض وغير ذلك. والفرقة الثانية هم الخوارج الحرورية الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أصحاب النهروان، هم التكفيريون، ضلوا وأضلوا، كفروا عصاة الموحدين وفسق المسلمين بالكبائر، وسيأتي لهذا تفصيل لاحق إن شاء الله تعالى. فهذه أصناف المنتسبين للدعوة، ثلاثة أصناف. دونك شيخ عبد الجبيري nous rapporte ici donc les trois types de gens qui se revendiquent de la prêche. Premier type, les gens de la clairvoyance, أهل البصيرة, de la science, c'est-à-dire de la compréhension de la religion d'Allah. Et normalement, vous devriez être capable maintenant de me donner la définition du fiqh fi din. Pourquoi ? Dans un des premiers cours, je vous avais donné la définition que Ibn Daqiq al-Aid il avait rapportée dans Sharh al-Bulugh al-Maram du hadith Man yuridillahu bihi khayran yufaqhu fi din. Vous expliquez c'était quoi le fiqh fi din à ce moment-là. Ensuite, dans le premier dars, première leçon, qui était l'introduction de Shurut Salah, où je vous avais défini le fiqh dans la linguistique et le fiqh dans le jargon des ulama. Qui s'est rapporté c'est quoi le fiqh dans la linguistique avec un dalil du Coran, et quel est le fiqh dans la jurisprudence islamique? Personne? Il faudra revoir, Inch'Allah. On avait dit le fiqh dans la linguistique, c'est quoi? Barakallahu fiqh, c'est le fahm, c'est la compréhension. Et le dalil, c'est وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Il y avait plusieurs versets du Coran qu'on avait cités, hein? Hein? D'accord? وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. D'accord? Mais vous ne comprenez pas leur tasbih. Hein? D'accord? Vous vous souvenez de ça ou pas? Ça vous dit quelque chose? Ok. Maintenant, dans la jurisprudence, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était quoi le fiqh? Hein? بِأَدِلَّتِهَا التفصيلية بارك الله فيك بأدلتها التفصيلية نعم faut dépoussiérer un peu inshallah faut revoir un peu ok ça va inshallah bah je vous interroge samedi prochain inshallah dans le cours de Shurut Salah ça va surtout toi et lui hein parce que vous êtes lancé hein ça va mais c'est bien vous êtes lancé au moins alhamdulillah jazakum allah khairan. Ça va ? D'accord ? Donc on continue ici en disant quoi ? C'est-à-dire la compréhension de la religion d'Allah et de l'appel à cette religion avec sagesse et bon rappel. Ainsi que les preuves, les arguments, et ce sont les plus heureux des gens. Et ce sont ceux dont Allah a fait l'éloge. Dans sa parole à son prophète, alayhi salatu wassalam, ici évidemment la traduction du sens, dit « Voici ma voix, j'appelle à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. » قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. C'est quoi la suite du verset? سورة يوسف verset 108. وسبحان الله وما أنا من المشركين. D'accord. Deuxième type, deuxième catégorie de prêcheurs, c'est les prêcheurs de l'ignorance. والعياذ بالله. Donc évidemment, il n'y a qu'un type ici parmi lesquels on doit essayer d'être, c'est le premier type qu'on a cité. Les prêcheurs de l'ignorance, c'est le deuxième type, ce sont ceux qui investissent les domaines de la da'wah, alors qu'ils n'ont aucune connaissance. Et subhanallah, quand Shir dit ça, j'ai immédiatement la jama'a tablir en tête. Hein? Compréhension de la religion d'Allah. Ils n'ont aucune connaissance, aucune compréhension de la religion d'Allah. Ou ils ont de la compréhension, mais pas assez pour être aptes à prêcher, et ceux-là sont ceux qui pervertissent sur terre et ne réforment rien. Ils sont en réalité une échelle pour les gens des passions. Troisième catégorie, troisième type de gens, c'est les prêcheurs de la fitna. Comme il a dit le cheikh ici, du'atul fitnati wa dhalal. Les prêcheurs de la fitna et de l'égarement. La première secte qui est entrée dans cette liste, ce sont les Sabaïya. Vous connaissez sûrement les Sabaïya, vous avez déjà entendu parler du nom de Abdullah ibn Saba. Et ce sont les compagnons de Abdullah ibn Saba. C'est un juif yéménite, comme on dit en arabe, aslama nifaqan. C'est-à-dire qu'il a montré l'islam, mais en fait de manière hypocrite. Pourquoi ? Pour combattre mieux l'islam. C'est ça qui veut dire le shir ici. Le shir dit, le juif yéménite qui s'est converti de manière hypocrite. Première chose qu'ils ont commise en islam, c'est inciter les gens contre le prince des croyants. Et le troisième des califes bien guidé, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu arda. Et ce jusqu'à ce qu'il le tue. Imaginez-vous ça. Regardez quel égarement. Le troisième calife. Uthman ibn Affan. Wama adraka ma Uthman ibn Affan. Hein? Dhul Nourain. Pourquoi on l'appelle Dhul Nourain? Qui sait me dire pourquoi on l'appelle Dhul Nourain? Hein? Vas-y, tfadda. Parce qu'il a épousé deux des filles du prophète. Regardez, il n'a pas épousé qu'une. Hein? Il a eu l'honneur. Hein? D'épouser qui? Pas une simple sahabiya. Là, deux des filles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et, yani, fada'iluhu, manaqibuhu kathira jiddan. Yani, c'est, hein, les fada'il, les préciences, yani, les, de Ahmed ibn Affan, elles sont nombreuses. Vous pouvez revenir au livre de la sunna là-dessus. Il fait partie de, ça lui suffit rien que de faire partie des quatre califes bien guidés. Et des dix, hein, من العشرات المبشرين بالجنة, à qui le paradis a été donné, non? Hein? Allah al-Musta'an. Et donc, et ce jusqu'à ce qu'il le tue. Une incitation, une stimulation jusqu'à ce que le calife radiallahu anhu arda soit tué. Et As-Sabaïya, ce sont les prédécesseurs des révolutionnaires jusqu'au jour d'aujourd'hui. Car parmi les fondements, et ça il faut bien comprendre ici, d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, hein, les gens de la Sunnah et du consensus, on avait expliqué qu'est-ce que ça voulait dire Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Pourquoi on les appelle Ahl-Sunnah? Parce qu'on a dit, yamunna mutamassikuna bil-Sunnah, parce qu'ils sont, ils s'attachent à la Sunnah. Wa mujtami'una 'alayha, ils sont regroupés sur la Sunnah. C'est pour ça qu'on s'appelle Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Les gens de la Sunna et du consensus, hein, ça fait partie de leur usul, parmi les fondements, hein, le fait de s'unir autour de celui à qui Allah a donné le commandement parmi les musulmans. Et de ne pas se diviser et de ne pas se révolter. Na'am. Les révolutionnaires parmi nos fils ont pris ce côté des Sabaïtes. Hein? Et leurs exactions sont nombreuses en islam. Zindaqa, Ar-Rafd et d'autres encore. La deuxième secte, ce sont Al-Khawarij, Al-Haruriya, qui se sont révoltés contre Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu arda. Hein? Qui Ali ibn Abi Talib? C'est quatrième calife parmi les califes bien guidés. D'accord? Le grand et le noble compagnon. Hein? On a déjà vu sa biographie dans le cadre du livre de Cheikh Rabi, on avait fait, non? Vous vous souvenez plus? Si, non? Hein? Il faut revoir les frères. Hein? Les gens de An-Nahrawan, et ce sont les Tekfiri, At-Tekfiriyun, ils se sont égarés et ont égaré. Ils ont rendu mécréants les désobéissants parmi les gens du Tawhid et les pervers des musulmans pour les grands péchés qu'ils ont commis. Et nous étudierons la chose en détail plus loin, Inch'Allah. Donc, Cheikh va s'attacher à étudier cette aqidah-là. Inch'Allah, normalement, ça devrait être aujourd'hui, Inch'Allah, en ce qui concerne la position d'Al-Sunnah al-Jama'a, de Khawarij et de Mu'tazila par rapport à ce qu'on appelle Al-Fasiq al-Milli, dans le pervers parmi les gens de notre communauté, celui qui commet un grand péché parmi les gens de notre communauté. D'accord ? On va voir que les gens de la Sunnah ont suivi la voie du juste milieu et la voie de la vérité. Inch'Allah. Voilà donc les types de gens qui se revendiquent de la da'wah. Ils sont donc de trois types. On a dit quoi? Le premier, c'était les gens de la science, la clairvoyance, compréhension de la religion. Deuxième, les gens de l'ignorance. Troisième, les gens de la fitna et de l'égarement. Ça va? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui à qui Allah veut un bien, il lui fait comprendre sa religion. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, Cheikh a dit, wa as'aduhum hum as-sinful awwal. Hein? Les plus heureux, c'est qui? C'est la première catégorie. C'est les prêcheurs de la science, de la preuve, de la compréhension de la religion d'Allah. Donc, hum du'atul basira wal bayyina wal fiqh fi dinillah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. maintenant on revient à au matin الآية فعلم أنه لا إله إلا الله سورة محمد. فعلم أنه لا إله إلا الله الشيخ رحمه الله بين الشاهد فقال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أولا العلم، يعلم قبل أن تدعو الناس إلى دين الله أنه يجب عليك أن تتعلم. وقد ذكر الشيخ ابن سعد رحمه الله في تفسير هذه الآية 8 أسباب لحصول العلم بلا إله إلا الله، حيث قال رحمه الله et on doit citer les 8 causes, les 8 manières de quoi, raison pour acquérir la science avec la science de la ilaha illallah. Et on va voir quelles sont ces 8 choses là. Mais avant ça, on va traduire le verset, donc la traduction approximative du verset de 19 de sourate Muhammad. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. Le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a montré la raison pour laquelle le verset a été cité. Ou pourquoi il a cité le verset. Il dit, il a commencé avant la science, par la science, ou avec la science, avant la parole et l'action. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. La science en premier. Sache qu'avant d'appeler les gens à la religion d'Allah, il t'est obligatoire d'apprendre. Et Cheikh Saadi, rahimahullah, qui est Cheikh Saadi, pour ceux qui y connaissent, c'est le Cheikh de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et le grand exégète du Coran qui a fait une explication du Coran qui est parmi les plus faciles, les plus abordables pour nous. Pourquoi? Parce que c'est un tafsir bil ma'na, il explique directement le sens du verset, d'accord? Et je vous le conseille vivement. Et bien dans ce tafsir de ce verset-là, Cheikh Saadi, rahimahullah, a rapporté dans son exégèse, donc de ce verset du Coran, 8 causes pour acquérir la science de la ilaha illallah. Il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, la première est la plus importante. أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الثاني العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير ف يعلم بذلك أو يعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فإن ذلك يجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقل ذرة ولا ينفعونهم بمثقل ذرة من جلب خير أو دفع شر فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية من سواه. السادس اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما وهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك. الثامن والأخير ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. انظر تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة بن سعدي رحمه الله. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Abou Jabiri en citant Cheikh Saadi رحمه الله. Il nous dit donc 8 causes, 8 manières pour acquérir la science de la ilaha illallah. Il dit la première et la plus importante, de méditer ses noms et ses attributs et ses actions qui indiquent la perfection de sa majesté et de sa magnificence car elles rendent obligatoire de faire des efforts dans son adoration. Ar-Rabb al-Kamil, le Seigneur parfait. Hein? Je voudrais faire une petite parenthèse ici, que voilà, c'est là que vous voyez l'importance de la langue arabe encore une fois. Hein? C'est qu'on traduit dans le domaine de l'aqida et certaines asma sifat, on perd du sens, il n'y a aucun doute là-dessus. Les mots, ils n'ont pas la même force. Hein? Et je vous assure que ce n'est vraiment pas évident à traduire. Donc il faut vraiment apprendre la langue arabe. Vous avez vu, peut-être pour ceux qui comprennent un peu l'arabe, quand j'ai lu la parole de Cheikh Abdelhamid Jebel en arabe, il y a une force dans la langue arabe qu'on ne retrouve pas dans la langue française, d'accord ? Hein ? Donc le Seigneur parfait à qui reviennent toutes les louanges, toutes les glorifications, toute majesté et toute beauté. Ça va, c'est clair pour le premier point ? La deuxième, la science du fait qu'il, le Très-Haut, est le seul créateur et le seul à administrer l'affaire. Et que l'on sache par cette science qu'il est le seul endroit d'être adoré. D'accord ? Je répète. La science du fait qu'il, subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, est le seul créateur. Hein ? Comme on dit, wa yudabbiru al-amr, est le seul à administrer l'affaire. Et que l'on sache par cette science, hein, qu'il est le seul endroit d'être adoré. C'est-à-dire quoi ? Comment il faut comprendre ça ici ? Comme Allah azza wa jalla est le seul à créer, et il est le seul à administrer l'affaire, on doit adorer que lui, subhanahu wa ta'ala. La troisième, comme salam, la science du fait qu'il est le seul à pourvoir de bienfaits, et ces bienfaits qu'ils soient apparents ou cachés, religieux ou des choses de ce bas monde, comme on dit, hein, al-ni'am al-zahira ou al-batina, hein, الشرعية أو الدنيوية. D'accord ? Car cela implique que le cœur s'attache à lui, subhanahu wa ta'ala, et son amour, subhanahu wa ta'ala, et l'adorer seul, sans rien lui associer. La quatrième, ce que nous voyons et entendons comme récompense pour ces awliya. Alors ici, awliya, c'est un mot qu'il faut traduire évidemment par sa définition. Et là, on sort un peu du livre, et on va aller voir dans ce qu'a dit Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, comment Cheikh al-Islam, hein, je pense que c'est la définition que le Mashir rapporte en général, sur qu'est-ce qu'un wali. Et c'est important de connaître ça, et c'est tout à fait contraire à ce que pensent certaines sectes, hein, comme par exemple les soufis, les définitions qu'ils donnent du wali. Le wali chez Ahl-Sunnah, c'est quoi ? Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a expliqué que c'est « kullu mu'minin taqi », hein, c'est-à-dire « tout croyant pieux ». D'où est-ce qu'il était, hein, chercher cette explication ou cette définition, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala? Eh bien, il l'a pris d'un verset du Coran. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Regardez, ala inna awliya Allah, on parle d'awliya, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا سكيل أولياء الذين آمنوا ceux qui croient وكانوا يتقون hein? Et c'est pour ceux qui veulent, c'est sourate Younes verset 62. Je sors de la parole d'Ibn Taymiyyah et on revient à la parole de Cheikh Abdel Jabiri hafidhahullah. Donc, et ce que nous attendons comme récompense pour ces Aulia, hein, qui sont sur le Tawhid, comme victoire et bienfait dans ce bas monde, et comme châtiment pour ses ennemis. Qui sont ses ennemis? Les ennemis d'Allah, ceux qui lui associent. Al-mushrikina bih, comme on a dit en langue arabe, d'accord? Tout ceci nous appelle à la science qu'il est le seul endroit d'être adoré, et ce, quel que soit le type d'adoration. Hein? D'accord? On avait vu ça dans le livre de Cheikh Rabi'a, hafidhahullah, hein, les 21 hadiths dans la croyance et le suivi, que quoi? Que l'adoration, c'est un droit exclusif, barakallahu fik, exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut être adoré, et ce quel que soit le type d'adoration. On ne peut pas vouer ne fût-ce qu'un seul type d'adoration. Vous vous souvenez de ça? Hein? À autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. La cinquième, hein, c'est la connaissance des caractéristiques des idoles qui ont été adorées avec Allah. Et ont été prises comme divinités. Vous allez comprendre pourquoi. Hein? Pourquoi ça, c'est une cause pour avoir la science de la ilaha illallah? Hein? Mais, et quelles sont, regardez la suite, c'est clair, et quelles sont imparfaites. À tous les points de vue, pauvres, elles ne détiennent ni pour elle-même, hein, pour elle-même ou pour leur adorateur, ni bien ni mal, ni vie ni mort, ni résurrection. Elles ne peuvent rendre victorieux ou secourir ceux qui les adorent. Elles ne peuvent pas leur être utiles, hein, ne fût-ce que pour une chose de la taille d'un atome, dans le fait d'amener un bien ou de repousser un mal. Et comme on a dit, ne fût-ce que pour une chose de la taille d'un atome. La science de cela implique la science qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et que toutes les divinités en dehors de lui sont fausses, sont des divinités fausses. Aliha batila, comme on dit. Hein? D'accord? Vain. Donc une question ici, qui n'est pas dans le livre, sort encore une fois du livre. Hein? Pourquoi on les appelle divinités? Allah les appelle divinités dans le Coran. Barakallahu fik. Bi'atibar annaha ma'bouda, comme on dit en arabe. C'est-à-dire parce que elles sont adorées, mais est-ce que c'est des vraies divinités? Elles sont fausses. Vain, barakallahu fikum, na'am. D'accord, c'est clair. La sixième, que les livres d'Allah, sont tous unanimes à ce sujet. Au sujet de quoi? Barakallahu fikum, de la ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il n'y a point, hein, qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah. Hein? Que nul n'est en droit d'être adoré avec vérité à part Allah. La ma'bouda bihaq, comme tu l'as dit, barakallahu fik, la ma'bouda bihaqin illallah. D'accord? La septième, que les créatures les plus particulières, ce sont ceux qui sont les plus parfaites, complètes en termes de comportement, de raison, d'opinion et de science. Et c'est qui? Ce sont les messagers et les prophètes, alayhi salatu wassalam. Les savants arabbaniyoun, ulama arabbaniyoun. Qui me sont rapportés, encore une fois? Vous avez vu qu'on a déjà vu pas mal de choses, hein? Qu'est-ce qu'un alim rabbani? Et qui a cité cette parole-là? Barakallahu fik, c'est la traduction, c'est quoi? Celui qui a la science, qui la met en pratique et qui la diffuse, l'enseigne. Hein? Et qui a cité cette parole-là? Qui a dit cette parole-là et qui l'a citée? J'avais dit que j'avais entendu Cheikh Mohsin Al-Abbad rapporter cette parole de quelqu'un qui s'appelle Al-A'rabi. Et qui est cité, si je me souviens bien, par Ibn Hazar Al-Asqalani dans Fath Al-Bari. Il a dit, l'alim rabbani man kana aliman amilan mu'allima. Vous vous souvenez de ça? D'accord? Hein? Donc les messagers, les prophètes, les savants, rabbaniyun, ont tous attesté cela à Allah. Ah, qui sait me rappeler au fait pourquoi est-ce qu'ils ont tous... quelle est la preuve qu'ils ont tous attesté cela à Allah? شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. بارك الله فيك. سي جوست سورة آل عمران. داكوغ. لا ويتيام. Ce que Allah a dressé comme preuve dans nos esprits, hein, et dans ce qu'on peut voir à l'horizon. C'est la seule manière que j'ai pu trouver de traduire cela. Ma aqamahu Allah min al-adillati al-ufuqiyya wal-nafsiyya allati tadullu ala al-tuhid a'zama dalalatin tunadi alayhi bilisani haliha bima awda'aha bin lutfi sun'atihi wa badi'i hikmatih wa gharaibi khalqih. J'avais pensé à laisser en arabe tellement c'est beau et même pas le traduire. C'est important qu'on essaie, tant qu'on peut, hein, d'apporter le sens en français. D'accord? Et dans ce qu'on peut voir à l'horizon, comme j'ai dit, qui indique de la manière la plus forte le tawhid, qui y appelle par elle-même, si vous voulez. Bilisani haliha, comme on dit en arabe. Parce que Allah y a mis comme grâce à sa création, merveille de sa sagesse et caractère unique dans sa création. Donc, voir tafsir, le Cheikh Saadi, pour ceux qui veulent aller voir, et Inch'Allah, je vous le conseille vivement, page 731-732. Donc le verset complet, ou la traduction du verset complet, c'est « Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Surat Muhammad, verset 19. Hein? Cheikh nous dit wa takmilatu al-ayati qawlu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum fi al-ayati ghayru ma taqaddama min al-'ilm bi la ilaha illa Allah huwa al-'ilm bi ma'naha wal 'amalu bi muqtadaha ay ma tadullu 'alayhi wa ma tatlabathu min al-'ibad amran akharan. ففي قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دليل على أن الفاسق الملي عاصي الموحدين لا يخرج من مسمى الإيمان وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة فقالوا في الفاسق الملي إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. Alors dans le تعليق on voit on dort فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. فإن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة في الدنيا ويستحلون دمه وماله وإن مات دون توبة فهو عندهم خالد ومخلد في النار. ومذهب المعتزلة يخرجون الفاسق الملي من الإسلام ولا يكفرونه بل يجعلونه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. هذا حكمهم عليه في الدنيا وأما في الآخرة فيقولون إن مات دون توبة فهو خالد مخلد في النار فوافقوا الخوارج في حكمه الأخروي واختلفوا معهم في حكمه في الدنيا وكلتا الطائفتين قد ضلت وأضلت وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمعتقد الصحيح والمنهج السديد إذ كان عملهم وفق النصوص من القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجمعوا بين الوعد والوعيد فقالوا أي أهل السنة والجماعة إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له ورحمه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه. والأمر الثاني الذي تضمنته الآية في قوله تعالى واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات فيه دليل على إحاطة علم الله عز وجل بأعمال العباد ومجازاتهم عليها وهذا يقتضي من العبد مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية وأن الله مجاز كلا بعمله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Obel Al-Jabiri حفظه الله تعالى. Donc le verset complet, sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l'au-delà. Surat Muhammad verset 19, en tout cas la traduction du sens de ce verset-là. Il y a dans ce verset comme science de la ilaha illallah d'autre chose que ce qui a précédé. Et ce qui a précédé c'est quoi? C'est la science de son sens et la mise en pratique de ce qu'implique cette attestation. Il y a deux autres choses, deux autres points qu'on peut tirer de ce verset-là. Il y a dans la traduction de sa parole, subhanahu wa ta'ala, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes, une preuve que le pervers de notre communauté, al-fasiq al-milli, ce qu'on appelle le désobéissant parmi les gens du tawhid de notre communauté, ne sort pas de la foi. Et c'est un point sur lequel il y a unanimité d'al-sunnah wal-jama'a. Qui ont dit concernant le pervers de notre communauté, al-fasiq al-milli, qu'il est croyant par sa croyance, pervers par son grand péché. Donc si quelqu'un vous dit, mais c'est pas grave, il y a divergence, j'ai d'autres avis, est-ce qu'on peut accepter ça? Pourquoi? Parce qu'il y a ijma. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas accepter quelqu'un qui va à l'encontre de l'ijma? Ça, cette règle-là, on l'a vu dans ce livre. Barakallahu fik, parce que toutes les paroles, les actions, les croyances des gens, on les pèse, si vous voulez, on les analyse à la lumière de deux balances, si vous voulez, deux mesures. Et c'est quoi on avait dit en arabe ou en français? C'est important, c'est des règles, des usul parmi les. Il faut connaître ça. An-nas ou al-ijma'. Et on avait défini c'est quoi an-nas et c'est quoi l'ijma'. C'est quoi an-nas? Al-kitab wa sunnah, un texte du Coran ou de la sunnah. Et l'ijma' ça va. On avait dit, le Cheikh Abdel Jabiri avait dit en tout cas, man khalafa nassan ou ijma'an, qu'est-ce qu'on fait? On rejette sa parole ou son action ou sa croyance. celui qui va à l'encontre d'un texte ou d'unanimité d'un ijma', on n'accepte pas cela. D'accord? C'est clair? Voilà, regardez, on le met en applique, on applique les règles qu'on a déjà vues. Hein? Donc s'il y en a qui vient vous dire, ouais, mais moi j'ai un autre avis, je suis un autre chir, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Allez, c'est Ahl Sunnah al-Jama'a, ils sont unanimes là-dessus, il n'y a pas d'autre croyance correcte que celle-là. C'est que le fasiq al-milli, on ne le sort pas de l'islam. C'est-à-dire que le croyant, s'il fait un grand péché, on ne le sort pas de l'islam. Il est croyant par sa croyance et il est pervers par son grand péché. Et on va voir plus en détail plus dans la suite. Barakallahu fi. Donc, où ils disent, Ahl Sunnah al-Jama'a, qu'il est croyant d'une croyance diminuée. Donc on peut dire, les gens de la Sunna le disent de manière différente. On peut dire par exemple, مُؤْمِنُمْ بِإِمَانِهِ فَاسِقُنْ بِكَبِيرَةِ. Retenez ces mots-là. C'est des mots que les mashikhs citent tout le temps dans les cours d'Aqida. مُؤْمِنُمْ بِإِمَانِهِ فَاسِقُنْ بِكَبِيرَةِ. Ou on peut dire aussi, مُؤْمِنُمْ نَاقِسَ الْإِمَانِ. Pourquoi? Parce que chez les gens de la Sunna al-Jama'a, l'iman il monte et il descend. Hein? D'accord? Donc on dit qu'il est croyant d'une croyance diminuée. Hein? Et les Mu'tazila, hein? Contrairement à ce que disent les Wa'idiyya parmi les Khawarij et les Mu'tazila, eux ils disent donc le contraire. Et on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Et si vous voulez avoir du détail, allez voir dans Fath al-Majid, qui est quoi la Fath al-Majid? C'est l'explication de Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, rahimahullah, qui est qui? Le petit-fils de Mohammed al-Wahhab, donc il a expliqué, le petit-fils a expliqué le livre de son grand-père, Kitab al-Tawhid, et il l'a appelé Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid, volume 1, page 53. Car les Khawarij rendent mécréant dans le bas monde, dans ce bas monde, celui qui fait un grand péché. Hein? Ils rendent licite son sang et son argent. Et s'il meurt sans repentir, il est pour eux voué à l'enfer éternel. Le madhhab de Mu'tazila, c'est qu'ils font sortir le pervers de l'islam, mais ne le rendent pas mécréant. Ils le mettent entre deux stades. Vous entendez toujours les mashikhs dire ça, hein? يَجْعَلُونَهُ فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَا الْمَنْزِلَتَيْنِ. Maintenant, vous allez comprendre qu'est-ce que les chouchous disent en voulant dire ça. C'est-à-dire que le khawarij, il rend mécréant à la tôle. Hein? Directement, il rend mécréant. Hein? Et s'il ne se repent pas, quoi? Éternellement en enfer. Parce qu'il a fait un grand péché. C'est clair? Mu'tazila, ils disent quoi? Ils disent, ils le font sortir de l'islam, mais ils disent pas qu'il est mécréant. Et ils disent qu'il est entre deux stades. Hein? Ni croyant, ni mécréant. Dans ce bas monde. Attention, c'est important de comprendre. C'est ainsi qu'il le juge dans ce bas monde. Tandis que dans l'au-delà, ils disent, s'il meurt sans repentir, il est éternellement en enfer. Vous voyez la différence entre Khawarij et Mu'tazila? Mais on va mieux le comprendre ici. Ils sont donc d'accord avec le Khawarij quant à son jugement dans l'au-delà. Ils ne sont pas d'accord avec eux en ce qui concerne son jugement dans ce bas monde. C'est-à-dire que tous les deux disent qu'il est éternellement en enfer s'il ne se repentit pas. Hein? Mais ils diffèrent dans ce bas monde. Mu'tazila disent qu'il est entre deux stades, ni croyant ni mécréant. Hein? Et le Khawarij dit qu'il est mécréant. Maintenant on va voir Ahl Sunnah al-Jama'a. Hein? وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Hein? On a fait de vous une communauté de juste milieu. Donc les deux groupes se sont égarés et ont égaré. Allah a guidé les gens de la Sunna et du consensus Ahl Sunna wal Jama'a vers la parole de vérité et la croyance correcte et la voie juste. Leur action est conforme au texte du Coran et de la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils ont regroupé ce qu'on appelle al-wa'd ou al-wa'id, la promesse et la menace. Parce qu'on a des textes où on a quoi? La promesse du paradis. Et on a des textes où on a la menace du châtiment. Et justement, ça c'est, le shir le dit pas ici, mais il le dit de manière implicite, pas explicite. C'est que parmi les usul de Al-Sunnah al-Jama'a justement, c'est quoi? C'est que, on, Barakallahu fait qu'on regroupe les textes dans un chapitre. Hein? Et on ne prend pas un texte seul. D'accord? Et c'est ça l'erreur qu'on fait, ces sectes-là. D'accord ? Justement, c'est qu'Ahl Sunna al-Jama'a, ils ont regroupé entre ces textes de l'Wa'd et les textes de l'Wa'id. Et là, vous comprenez pourquoi on les appelait le Wa'idiyya, al-Khawarij, al-Mu'tazila un peu plus tôt. Hein ? D'accord ? Donc, ils ont dit, c'est-à-dire Ahl Sunna al-Jama'a, que celui qui fait un grand péché dans ce bas monde est un croyant par sa croyance ou pour sa croyance, pervers par son grand péché. Tandis que dans l'au-delà, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne et lui fait miséricorde et le fait rentrer au paradis. Et s'il veut, le châtie. D'accord ? D'ailleurs, souvent les mashayikh disent Insha'a ghafara lahu rahmatan minhu. S'il veut, il lui pardonne par miséricorde de lui. Hein ? Wa insha'a adhabahu adlan minhu. Et s'il veut, il le châtie. Pourquoi ? Par justice, par équité. D'accord ? Ça va ? Le deuxième point compris dans le verset, c'est dans sa parole, ou dans la traduction en tout cas, et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Il y a la preuve que la science d'Allah englobe ihata, ce qu'on appelle ihata. Hein? Toutes les actions des adorateurs et leur récompense en fonction de leurs actions. Le mot récompense ici, il faudrait plutôt dire rétribution. Hein? Parce que le jaza, ça peut être avec quelque chose, ça peut être le paradis, ça peut être, tu peux être rétribué par le paradis si tu as fait du bien, et on va le voir, et tu peux être rétribué par de l'enfer, ou l'adoubila, du châtiment si tu as fait le mal. Et donc que ceci implique que l'adorateur appréhende la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit en privé ou en public, ce qu'on appelle en arabe muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Hein? Fis sirri wal alaniya. Et qu'Allah rétribue chacun en fonction de son action. Que celui qui trouve un bien remercie donc Allah. Et que celui qui trouve autre chose que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. D'accord? On continue en disant. قال المصنف رحمه الله يعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا سورة المزمل. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah, dans les trois fondements? Il nous dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à tout musulman et à toute musulmane d'apprendre ces trois points et de les mettre en pratique. Hein? Le premier, qu'Allah nous a créés et nous a attribué la subsistance et ne nous a pas laissés à l'abandon. Mais au contraire, nous avons envoyé un messager, celui qui lui obéit entrera au paradis et celui qui lui désobéit entrera en enfer. La preuve de cela, la traduction de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Surat al-Muzammil, traduction, verset 15-16. Explication de Cheikh Abou al-Jabiri, hafidhahullah. Fa inna hadi al-masa'il, hein? Muzammil, al-Muzammil, 15-16. Fa inna hadi al-masa'il lati dakara al-Sheikh, yal masa'ilu, اعتقادية والتي مضت مسائل عملية المسألة الأولى ما ذكره من أن الله خلقنا من أن الله سبحانه وتعالى خلقنا أي أوجدنا من العدم نعمة الإيجاد ورزقنا وهذه نعمة الإمداد نعمة الإيجاد نعمة الإمداد ونعمة الإعداد ها ça on peut pas reproduire cette chose là en langue arabe. En langue française. وَلَمْ يَتُرْكُنَا هَمَلَا لَمْ يَجْعَلْنَا سُدًا مُضَيِّعِينَ بَلْ أَرْسَلَا إِلَيْنَا رَسُولًا هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعْدَ نِعْمَةِ الْخَلْقِ وَنِعْمَةِ الرِّزْقِ تَأْتِي نِعْمَةُ الْإِعْدَادِ لِلْحِكْمَةِ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ مِنْ أَجْلِهَا وَهِيَ عِبَادَتُهُ وَعِبَادَتُهُ هَذِهِ لَا يُدْرِكُهَا النَّاسُ تَمَامَ الْإِدْرَاكِ وَلَا يُؤْدُونَهَا حَقَّ الْأَدَاءِ كَمَا يُرِيدُ اللَّهُ مِنْهُمْ إِلَّا بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والرسول في اللغة من بعث برسالة فعول بمعنى مفعل رسول بمعنى مرسل. Et là on va voir qu'on rentre dans le quoi, dans ce qu'on appelle l'awzan, Hein? Parce que vous voyez les balances, parce que les mots en arabe sont sur une balance. Et les ulama ont facilité, la langue arabe ont mis sur trois lettres. Fa, a, la. Hein? D'accord? On va voir que Rasoul, c'est sur le wazn de fa'oul, qui veut dire en fait mursal, sur le wazn de mouf'al. Hein? Pourquoi? Mursal, ça veut dire a été envoyé, envoyé, le participe passé, si vous voulez, en langue française, d'accord? On va voir ça, Inch'Allah. وفي الاصطلاح رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه ولابد قبل بيان معنى الآية ووجه دلالتها على هذه المسائل أن نبين مهام النبي عليه الصلاة والسلام كما دل عليها الكتاب الكريم وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أولى المهمات أنه شاهد، شاهد للخلق وشاهد عليهم، شاهد لهم بما عملوا به من سنته وشرع الله الذي جاء به، والشاهد عليهم بما تركوه ولم يعملوا به. السلام. المهمة الثانية البشارة والنظارة، وهي البشارة بالجنة للمطيع، والنظارة وهي التخويف بالعقاب للعاصين. الثالثة الحكم بين الناس والفصل في خصوماتهم. الرابعة تعليم الناس شرع الله. هذه أهم وظائف الرسول عليه الصلاة والسلام، فدللت هذه الآية على هذه المسائل واضحة. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والرسول الذي أرسله الله إلى فرعون هو موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون. وجه الدلالة على أن من أطاع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، في ذكر ما نله فرعون على معصيته لموسى عليه السلام. فإن الله سبحانه وتعالى يحذر هذه الأمة من معصية النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العاصي منها سيلقى ما لقيه العصاة المكذبون لرسلهم، فهو يقول من عصى محمدا منكم فإنه عرضة لأخذ الله إياه، الأخذ الوبيل، كما أخذ فرعون على معصيته لموسى عليه السلام. فهذه الآية تدل على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به، والتحذير من معصيته، والتحذير من معصيته، ويدل على وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام والحذر من معصيته من السنة، ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. J'ai tout lu en langue arabe pour vous faciliter après, inshallah, en langue française, et on va terminer là-dessus, inshallah. Donc, qu'est-ce que nous dit, quelle est l'explication de Cheikh Abel Jabiri sur ce point-là? Les points qu'a rapporté le Cheikh ici sont des points dans la croyance, alors que ceux qui ont précédé sont des points dans la pratique. Le premier point, ce qu'il a rapporté qu'Allah nous a créé, c'est-à-dire qu'il nous a fait exister du néant. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Donc on termine ce point-là, Inch'Allah. Donc c'est qu'Allah nous a fait exister du néant, ce qu'on appelle ni'matul ijad, c'est-à-dire le bienfait qu'Allah nous a fait exister. Et il nous a attribué la subsistance, ce qu'on appelle ni'matul imdad, c'est le bienfait d'assistance, d'aide. Il ne nous a pas laissé à l'abandon, il ne nous a pas laissé en pure perte, perdu. Mais de plus, nous avons envoyé un messager, alayhi salatu wassalam, et c'est Mohammed, alayhi salatu wassalam. Après donc le bienfait qu'Allah nous a fait exister et le bienfait qu'Allah nous ait attribué la subsistance, vient le bienfait de la préparation, l'i'dad, hein, à la raison pour laquelle Allah a créé la création. Et c'est son adoration. Hein, donc vous avez d'abord quoi? Ni'mat al-ijad, et puis ni'mat al-imdad, et puis ni'mat al-i'dad. D'accord? Cette adoration que les gens ne peuvent comprendre, cerner de manière complète, ne peuvent s'en acquitter comme il faut, comme Allah le veut, que par l'envoi de messagers. Le messager, dans le sens linguistique, dans le ma'na al-lughawi, c'est quoi? C'est celui qui était envoyé avec un... dans le ma'na al-lughawi, c'est celui qui a été envoyé avec un message. D'accord? Et Rasoul, c'est sur l'ouazn de fa'oul. D'accord? Sur la balance de fa'oul. Avec le sens de mouf'aloun. D'accord? C'est-à-dire Rasoul avec le sens de mursaloun. Évidemment, si on n'a pas langue arabe, on ne pourra comprendre ni cette chose-là. Hein? Rasoulun, c'est sur l'ouest de la balance de mursaloun. Mursaloun, c'est-à-dire le parti passé du verbe arsala yursilo. C'est-à-dire quoi? Envoyer avec un accent. Hein? Un accent aigu. D'accord? Parti passé, envoyer. Parti passé en français. D'accord? Mursaloun. D'accord? On voit que les awzan sont très importants. Hein? Donc dans le jargon religieux, dans l'istilah shar'i, c'est quoi? C'est un homme parmi les fils d'Adam à qui Allah a révélé une législation et à qui était ordonné de la transmettre. Avant de mettre en évidence le sens du verset cité et la raison pour laquelle il a été cité comme preuve, ce qu'on appelle wajh al-istidlal, sur ce point, nous nous devons de montrer les tâches du prophète, ce qu'on appelle Maham al-Nabi alayhi salam. La première, il est un témoin pour la création, et contre eux, donc pour eux et contre eux. Un témoin pour eux, pour ce qu'ils ont mis en pratique de sa sunna et de la législation d'Allah avec laquelle il est venu, et un témoin contre eux pour ce qu'ils ont délaissé et n'ont pas appliqué. D'accord? Donc un témoin pour eux et contre eux. Deuxième, le fait d'annoncer la bonne nouvelle du paradis pour l'obéissant, et de faire craindre le châtiment aux désobéissants, ce qu'on appelle le bisharatu ou le nadaratu. La troisième, juger entre les gens, le faslo fil khusumat, trancher entre eux dans leurs disputes. La quatrième tâche du prophète, enseigner aux gens la législation d'Allah. Ce sont les plus importantes tâches du messager. Le verset indique ce point-là de manière évidente. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Traduction, donc, comme on avait dit, de Sourate Muzammil, verset 15-16. Le messager qui a été envoyé à Pharaon, c'est qui? Moussa, Moïse, alayhi salam. Pharaon a désobéi à Moïse. Donc comment le verset indique-t-il que celui qui obéit au prophète Mohammed entrera au paradis, alayhi salam, et celui qui le désobéit rentrera en enfer? Mais c'est clair, hein, dans ce que Pharaon a obtenu pour avoir désobéi à Moïse. Car Allah met en garde cette communauté de désobéir à son prophète, alayhi salatu wassalam. Et que celui qui lui désobéit parmi cette communauté trouvera ce qu'a trouvé les désobéissants, ceux qui ont rendu leur messager mensonger. Hein? Il dit, celui d'entre vous qui désobéit à Mohammed, alayhi salatu wassalam, il s'expose à ce qu'Allah le saisisse rudement, comme il a saisi Pharaon rudement, car il a désobéi à Moïse, alayhi salatu wassalam. Ce verset indique donc l'obligation d'obéir au prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce qu'il a ordonné, et une mise en garde contre le fait de lui désobéir. Parmi les preuves de la sunna, donc Cheikh nous rapporte en plus, on a une preuve du verset du Coran, une preuve du Coran, sur l'obligation d'obéir au prophète, alayhi salatu wassalam, et une mise en garde contre le fait de lui désobéir, et maintenant il nous donne preuve de la sunna. Et c'est un hadith rapporté par Abu Huraira dans Sahih al-Bukhari. Et c'est qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Parmi les preuves de la sunna qui indique l'obligation d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam et la mise en garde contre le fait de lui désobéir, ce que rapportait le Bukhari dans son sahih de Abu Huraira radiallahu anhu arda, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. C'est une traduction littérale ici. Hein. Il fut dit, qui refuse donc au messager d'Allah? Il répondit, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit aura certes refusé. Et c'est un hadith rapporté par le Bukhari, numéro 7280. Hein, et je vous conseille d'aller voir l'explication d'Ibn Hazr al-Asqalani dans Fath al-Bari. Il rapporte un point intéressant entre justement, comment est-ce qu'il faut comprendre ici, quand un musulman désobéit, hein, et quand un kafir désobéit. D'accord? Je ne vous le rapporte pas pour vous rendre un peu curieux, pour que vous ayez voir vous-même, Inch'Allah. Et c'est donc hadith numéro 7280. Moi, dans l'édition que moi j'ai de Fath al-Bari, c'est le dernier volume. Avant le glossaire, ça va? Alors, qui sait me dire vraiment de manière très rapide, parce qu'on a encore peut-être une ou deux minutes, on fera peut-être la prochaine fois. Une petite question, la prochaine fois, Inch'Allah. Comme ça, vous revoyez. Inch'Allah, la prochaine fois. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أخوان